La vie serait tellement triste sans jouer. C'est ludique. 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. Aujourd'hui au programme de l'émission, je vais vous présenter le jeu Marrakech, un jeu expert qui a obtenu quand même le diamant d'or. On retrouvera aussi Dorine pour les sorties en toute fin d'émission et on va commencer avec Morgane pour le duel. Salut Morgane.
Salut.
Alors Morgane, le duel, donc c'est une nouvelle rubrique où on va opposer finalement deux jeux, hein.
Oui, c'est ça. Alors exceptionnellement, c'est pas face au jeu que tu vas présenter. Le but, c'est qu'à terme, on arrive à présenter un jeu face au jeu que tu présenteras.
C'est ça.
Mais du coup, pour cette semaine, on a choisi un thème et on va partir sur les jeux d'association d'idées, avec d'un côté une sortie très récente et de l'autre un taulier dans sa catégorie.
Mm-hmm.
Côté sortie récente, c'est donc Perfect Worms, le dernier sorti chez Ticket Edition dans la même gamme que Lucky Numbers,
ouais.
Un jeu de Paul-Henri Argiot qui est maintenant chroniqueur sur C'est ludique le mercredi, et illustré par Christine Elkouf. Face à lui, donc, on a le taulier de sa catégorie, c'est Codenames, des plus gros succès dans les jeux d'association d'idées. Un jeu de Vladash Fatil, illustré par Thomas Kisserowski chez Yellow. Alors, ils ont quand même de bonnes différences dans leur façon de jouer, mais c'est vrai qu'ils se rejoignent sur plusieurs points, donc c'était l'occasion de les affronter.
Ah ouais, t'as choisi un poids lourd quand même face à Perfect Worms.
J'ai choisi un poids lourd, ouais. On va commencer par présenter rapidement Perfect Worms. Du coup, donc dans Perfect Worms, on va construire une grille de mots fléchés grâce à des mots indices et essayer, une fois qu'elle sera construite, de trouver les bonnes associations d'idées qui vont ensemble. Forcément, comme c'est coopératif, le but, ça va être d'essayer de trouver les mêmes associations que les autres joueurs. Donc, sauf qu'en construisant tous ensemble cette grille, on va avoir des joueurs qui vont ajouter des mots sur des lignes où on pensait avoir une idée logique. Et d'un coup, il y a tout qui s'écroule un peu. On doit essayer de comprendre là où le joueur veut en venir.
Ouais.
Si je vous mets, par exemple, 7 et décembre, eh ben, on peut penser soit à Noël, soit à Réveillon.
Ouais.
Et c'est vrai que si on rajoute cadeau, eh ben, on se recentre un peu plus sur Noël.
Oui, oui.
Mais voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent mettre un mot complètement à l'opposé et ça nous pomme complètement. C'est tout l'intérêt du jeu, puisqu'en fait, petit à petit, les mots vont être de plus en plus précis, ou pas d'ailleurs, parce que on peut aussi fermer une ligne en mettant une flèche à un endroit précis sur le plateau, enfin sur le centre du jeu. Et en fait, on ne pourra plus rajouter de mots indices. Donc, on se retrouve avec deux petits mots qui peuvent donner plein d'indices, enfin plein d'associations. Et on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'on va pouvoir mettre. Donc voilà, donc on va avoir cette première phase de construction de grille et après on va avoir une seconde de réflexion pour trouver du coup les associations des différentes flèches. Plus on sera de joueurs à trouver la même association, plus on aura des perfects et un score qui grimpera, même si honnêtement dans ce genre de jeu, le score il importe peu en fait. C'est très rare qu'on les compte.
Ouais, mais oui. Et puis moi ce que j'aime bien dans les associations de mots, c'est que ça soit, tu penses toi à un mot avec par exemple ta femme et les enfants vont penser eux à un autre mot. Toi, tu vois, par exemple, ta mère personnage, tu penses à Poséidon. Eh bien,
oui.
Eux, ils vont mettre Aquaman. Donc, forcément, ça va pas.
C'est pour ça que le but, c'est quand même d'essayer de rajouter un maximum de mots pour recentrer facilement l'idée et qu'on arrive à essayer à peu près tous de trouver la même chose. Enfin, je crois qu'il en faut au moins trois joueurs qui aient la même association pour avoir un perfect. Donc, voilà, ça peut se faire, mais c'est vrai que des fois, on a des joueurs qui partent complètement à l'opposé de ce qu'on voulait dire. Et on se dit, j'étais toute seule dans mon coin, quoi.
Mais oui.
Ça marche moins. On passe vite fait à Codenames aussi. Donc, dans Codenames, on aura deux équipes avec chacune d'entre elles qui aura un maître espion et des agents en mission. Les maîtres espions de chaque équipe connaissent tous les informateurs puisqu'ils ont une carte commune devant eux avec les emplacements de chacun. Et il va falloir qu'ils arrivent à faire deviner où sont placés leurs informateurs de la bonne couleur, parce qu'on a des informateurs qui seront rouges, la couleur de la première équipe, d'autres qui seront bleus, la couleur de la deuxième équipe, du coup, et il y aura aussi des informateurs neutres, donc eux, ils n'auront pas trop d'impact, mais ils serviront quand même. Chaque maître espion devra faire deviner ses propres informateurs. Pour ça, il va utiliser un mot unique, en fait, qui va lui permettre de faire deviner, dans l'idéal, plusieurs informateurs d'un coup. On ira ensuite les recouvrir avec des tuiles informateurs sur les mots qui sont concernés au centre de la table. Par exemple, si le joueur doit faire deviner ses informateurs qui sont cachés derrière les mots concert, flûte et danse, il peut annoncer musique en 3. Et là, les autres joueurs vont pouvoir faire des propositions entre 1 et 3 mots qu'ils pensent être les bons informateurs. Ils ne seront pas obligés de faire les 3 mots, surtout s'ils ont un doute, parce que le but, c'est quand même d'éviter les informateurs ennemis pour pas leur laisser trop d'avantages, et surtout l'assassin qui est présent sur la carte. Donc, pendant ce temps, c'est vrai que les autres agents de l'autre équipe, ils vont tenter d'écouter les indices pour éviter de tomber sur les mauvais informateurs et essayer de regrouper un peu tout ce qu'ils peuvent pour aller au plus vite vers la victoire.
Donc, Codenames, un grand classique. Je ne sais pas combien il y a eu d'exemplaires de vendus.
Ouais, je sais pas non plus. Par contre, oui, c'est vrai que c'est un gros succès. Et puis, il y a eu d'autres éditions en plus qui sont sorties. On a eu la version duo qui se joue exclusivement à deux joueurs. Il y a la version Disney aussi avec les personnages de la licence. Il y a une version image avec que des images. Et il y a même une version Québec qui est sortie. Alors, je l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Mais elle est sortie, elle existe. Donc voilà, ça a été compliqué d'opposer ces deux jeux-là parce que c'est vraiment deux très bons jeux dans leur catégorie.
Un qui vient tout juste de sortir. En plus, on lui souhaite même la moitié du succès de Codename. Je pense qu'il serait d'accord.
C'est ça, c'est clair. Donc c'est vrai qu'ils ont plein de points forts assez identiques. C'est vrai qu'on a le côté ambiance, le côté familial. On peut y jouer à beaucoup, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Dans Codenames, on doit quand même avoir des mots indices qui sont assez subtils pour pas être trop facilement trouvés par les autres. Ouais. Dans Perfect World, au contraire, il n'y a pas d'équipe, donc on fera vraiment tout pour que tout le monde trouve la bonne association, enfin la même association d'idées. Ce que je peux peut-être reprocher à Codenames, c'est que le maître espion, il est seul de son côté. Donc il a moins le côté réflexion en groupe, le côté ambiance de recherche. C'est vrai que moi, quand je faisais maître espion, j'avais un peu de mal parce que je voyais les autres qui cherchait, puis en fait, le maître espion, il peut pas dire grand-chose à part son mot. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Alors que dans Perfect Force, du coup, c'est du coopératif de bout en bout. On a un bon concours de mauvaise foi dans les deux joueurs, dans les deux jeux, par contre.
Il y a aussi un mode compétitif dans Perfect Words.
Ouais, il y a aussi un mode compétitif. Alors lui, je l'ai pas essayé, c'est vrai que j'ai toujours joué en mode coopératif.
Moi, j'aime bien la compétition, donc j'ai joué en mode aussi compétitif.
Je sais même pas s'il y a beaucoup de différences dans le...
Non, il n'y a pas beaucoup de différences, sauf que tu marques un peu des points comme au principe de Dixit, quoi, si tu as trouvé le même mot. Voilà, c'est... Donc, voilà, donc alors, ton duel, du coup, la victoire est
pour... alors, mon duel, alors je vais quand même juste finir les avis, enfin les différences que j'ai pu relever. Dans Perfect World, c'est vrai que les règles, tu les expliques hyper vite, enfin elles sont vraiment très très rapides à expliquer. J'ai trouvé bien plus compliqué d'expliquer Codenames, parce que le maître espion, il a plus de contraintes, donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un jeu un peu plus complexe et peut-être moins sortable avec des plus jeunes, parce que du coup, par rapport à un Perfect Swords, tu vas vraiment pouvoir jouer même avec des plus jeunes. Par contre, dans Codenames, il est peut-être plaqué, mais il y a un thème quand même. On joue des espions. Voilà, on a des espions, on a des agents qui sont illustrés sur chaque tuile. Donc c'est vrai que voilà, c'est Perfect Swords, il n'y a pas de thème. Hein. C'est illustré sur le thème de la plage, mais il n'y a pas vraiment de rapport avec. Ça n'a pas été du tout évident de les départager sans faire jouer en plus la vie personnelle dessus, parce que j'ai quand même mon avis dessus. C'est pas une chronique évidente que tu m'as laissé là.
Eh non.
C'est hyper dur. Les deux sont vraiment deux belles idées. C'est vrai que dans cette catégorie, même s'il y en a déjà un qui est super bien installé dans le milieu ludique, qui a vraiment sa place. Après, Perfect Swords, pour moi, il devrait faire sa place sans trop de soucis dans cette catégorie. Il a vraiment tout pour plaire. Mais le vainqueur du duel, ça va être quand même Perfect Swords pour son côté vraiment intergénérationnel. Ouais, parce qu'en fait, je me dis que les plus jeunes peuvent y jouer. Et puis, ça apporte un côté rafraîchissant dans les jeux de mots et d'association d'idées. Donc, voilà.
Le petit nouveau Battelier classique, dis donc.
Voilà, le petit nouveau Baltelier, ouais.
Merci beaucoup, Morgane. Un autre duel vendredi prochain.
Ça marche.
Salut.
Bon week-end, salut.
Allez, d'ici quelques instants, je vous parle d'un jeu expert qui s'appelle Marrakech, qui a obtenu le Diamant d'Or, donc ça veut dire un des meilleurs jeux experts de l'année.
C'est ludique, 9h30-10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Aujourd'hui dans C'est ludique, je vous emmène en voyage du côté du Maroc à Marrakech. Marrakech est un jeu de Stefan Feld qui a obtenu le Diamant d'Or en 2023, à ne pas confondre avec Marrakech, le célèbre jeu familial de Gigamic où il faut poser des tapis. Là on est clairement sur un jeu expert. Marrakech est un jeu de Queen Games, il existe plusieurs versions du jeu car ce jeu est issu d'une campagne Kickstarter. La version dont je vais vous parler est l'essentielle édition, celle que nous propose Atalia. Alors vous allez vivre dans cette cité marocaine, vous allez explorer les oasis, faire des spectacles de rue, augmenter votre influence sur la mosquée et dans le palais, vous balader dans les souks pour marchander des produits de luxe ou encore naviguer sur la rivière. Mais n'oubliez pas de payer les gens et de prévoir suffisamment de dates et d'eau, c'est un conseil à ne pas prendre à la légère, car vous pourriez perdre beaucoup de points. Dans ce jeu, vous avez énormément de matériel. Le plateau du jeu est placé sur la table, il comporte de nombreuses zones, dont l'escalier du palais, l'escalier de la mosquée et la rivière. Chaque joueur aura son propre plateau de joueur, qui a plusieurs zones pour les assistants et les caissiers. Alors au-dessus, sous forme de puzzle, vous allez ajouter une tuile d'approvisionnement où l'on stockera ses ressources personnelles. Les dinars, pas la ville, l'argent, les dates et l'eau. Chaque joueur commence avec une eau, une date et un dinar.
Chaque joueur reçoit également un keshi. Hein. C'est une petite pièce en bois de chacune des 12 couleurs. Et ces keshi hein, sont posés derrière un paravent. Hein. C'est les pièces essentielles du jeu. Le jeu se joue sur 3 saisons. Chaque saison a 4 tours et chaque tour se compose de 4 phases. Il y aura un scoring à la fin de chacune des 3 saisons, puis en fin de partie. Intéressons-nous maintenant aux 4 phases d'une manche. Alors les 4 phases de chaque manche. La première chose à faire, c'est de sélectionner les keshi et poser vos meeple assistants. Chaque joueur choisit 3 des keshi derrière son paravent, puis quand tout le monde a choisi, chaque joueur place un de ses assistants sur son plateau de joueur dans la zone qui correspond à la couleur de son keshi sélectionné. Si vous avez choisi vert, vous placez votre assistant dans la zone verte. Si vous avez choisi jaune, vous placez votre assistant dans la zone jaune, sachant que la zone jaune, orange et violet est la même, c'est le soute. La couleur rouge, elle, c'est un petit peu particulier. C'est le porteur d'eau, on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, l'un des joueurs va ramasser tous les keshi et les jette dans la tour des keshi. Alors cette tour est un petit peu spéciale, c'est comme une tour à dés, sauf que celle-ci, eh ben, on fera tomber un certain nombre. Il y en a qui seront bloqués, tous ne vont pas tomber. Ensuite, les keshi sont triés par couleur. Dans la deuxième phase, c'est de récupérer les keshi dans l'ordre du tour. Chaque joueur choisit une couleur et prend jusqu'à 2 keshi de cette couleur et les place sur les sections correspondantes de son plateau de joueur. Attention, vous ne pouvez pas récupérer un keshi si vous ne pouvez pas l'utiliser. On continue comme ça à prendre des keshi à tour de rôle jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Tout le monde n'aura pas le même nombre de keshi. N'oubliez pas d'échanger les keshi bois contre des keshi carton pour certaines couleurs. Pour d'autres couleurs, il suffira d'avancer le jeton bois repère. Tout est très bien expliqué dans la règle. Troisième chose, utilisez vos assistants, car pour le moment, ils ne sont que posés. Dans l'ordre du tour, chaque joueur utilise ses 3 assistants. Et là, 2 choix s'offrent à vous. Alors tout d'abord, vous pouvez prendre un nouveau keshi en carton cette fois, ou avancer le pion dans la réserve de la couleur du secteur correspondant. L'autre option, c'est de choisir de prendre l'action du secteur, et la force va être déterminée par le nombre de keshi dans le secteur. Alors il y a 9 secteurs sur votre plateau, autant dire il y a beaucoup de choses à faire. Le verger des dates pour récupérer des dates, c'est primordial pour nourrir votre personnel en fin de saison. Le souk, pour faire des échanges ou acheter des objets de lutte. La grande place, avec un système de roues pour gagner des bonus selon le nombre de spectateurs. La mosquée et le palais, vous avancerez un de vos assistants sur le plateau central, sur les marches, et en fonction de la zone où il se trouve, tous les deux, vous pourrez récupérer un bonus. On pourra aussi acheter des parchemins avec des bonus. La médina, vous placerez vos gardes et vous pourrez acheter des portes, une action aussi primordiale dans le jeu. Le Sahara pour récupérer des oasis qui vous permettront de gagner des points bonus. Et la rivière. En général, pour faire les actions, il faut pouvoir les payer en pièces, eau ou date. Vous voyez, dans Marrakech, il y a énormément de possibilités et au début, c'est pas forcément évident de choisir car vous ne pourrez pas tout faire. Les porteurs d'eau, les keshi rouges, eux vous font gagner une eau supplémentaire. Après que chaque joueur a utilisé ses 3 assistants, on passe à la dernière phase, le bonus de la rivière. Tout dépend où sera votre pion, mais vous pourrez gagner des ressources ou des points. Vous remarquerez qu'après 4 tours, vous n'aurez plus de keshi derrière votre paravent. Vous aurez utilisé donc les 12. Il est temps de passer à la fin de saison. Alors première chose, on évalue la rivière. Le pêcheur en première position, lui, reçoit le bonus indiqué sur la tuile à la fin de la rivière. Tous les pêcheurs ensuite retournent au début de la rivière et c'est reparti pour une nouvelle pêche. Chose très importante, je vous en ai déjà parlé, il va falloir subvenir aux besoins de vos habitants pour ce faire, payer les ressources indiquées sur les tuiles de provisions révélées. Si vous ne pouvez pas payer les coûts, vous perdez toutes vos ressources et prenez alors des points négatifs pour toutes les tuiles, même celles que vous auriez pu payer. Chaque joueur doit retourner une tuile de provision face cachée pour augmenter ses coûts pour le tour suivant. Ensuite, il n'y a plus qu'à retourner la nouvelle tuile du bureau d'échange, révéler la nouvelle tuile de la rivière, donner à chaque joueur un keshi de chaque couleur, passer le pion de la saison à la personne suivante qui prend également le pion premier joueur. Après la troisième saison, place au scoring final. Les secteurs remplis vous donnent 10 points de plus. Calculez vos tuiles oasis, 3 maximum, et vous avez encore quelques points pour vos ressources restantes. Il existe différents modules que je vous laisserai découvrir, mais sachez que vous avez déjà une très bonne rejouabilité sans. Vos stratégies seront différentes d'une partie à l'autre. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de marquer des points. On retiendra aussi cette originalité de la tour de sélection. Alors, certains seront malheureux de ne pas voir leur keshi tomber, mais vous pourrez les piquer aux autres. On comprend pourquoi ce jeu a obtenu le diamant d'or. Maintenant, c'est l'un des meilleurs jeux experts de cette année. Mais vous savez quoi? L'année n'est pas encore finie. Donc, ça s'appelle Marrakech et vous pouvez le retrouver donc chez Atalia.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le vendredi dans C'est Ludique, c'est le jour des sorties. D'ailleurs, il n'y a pas que dans C'est Ludique, dans les boutiques aussi. Et pour nous en parler, je suis avec Dorine. Bonjour Dorine.
Et salut, comment ça va?
Eh bien, ça va bien et toi?
Ça va plutôt bien. Écoute, cette semaine, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit quoi, Matt?
Dit sortie.
Et dit sortie, non, qui dit rentrée dit Noël, bien sûr.
Ah,
comment ça,
c'était
pas évident.
Ah non, là, c'était pas évident, effectivement.
Eh non, donc apparemment, pour les éditeurs, c'est quand même ça, notamment pour Yellow, qui va nous sortir un exit calendrier de l'avance. C'est le deuxième du nom. Ouais. On avait déjà eu un sorti l'an dernier qui avait plutôt plu au public. Ça allait exiter André de l'Avent, c'est donc un calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous avez une petite énigme à résoudre. L'an dernier, les avis étaient plutôt favorables, même si, comme pour les calendriers de l'Avent de chocolat, tu sais, t'as bien 4 chocolats qui sont vraiment très chouettes.
Mais
et
oui.
Les autres, c'est vraiment juste pour te faire patienter. Apparemment, c'est un peu ça aussi, mais voilà, c'est la deuxième édition. Ça peut changer et ça peut être une bonne idée de cadeau. Ça sort maintenant pour être sûr de l'avoir à Noël.
Eh oui, parce qu'il faudra l'avoir pour le 1er décembre, hein, de toute façon.
Bah oui, alors là, on est bien en avance, mais on sait jamais. Pour une fois qu'il n'y a pas de retard dans les sorties de jeux de société, on est plutôt content.
Allez.
Allez, deuxième essai pour toi. Qui dit rentrée, dit...
Dit quoi ? Dit cartable.
Eh ben non, qui dit rentrée, dit café. Bah oui, café. Il en faut pour tenir le rythme et
c'est vrai.
De nouveau se lever tôt. Et surtout supporter les journées qui s'enchaînent, les galères pour choisir un vêtement ni trop court ni trop long. Mais ça, c'est que pour les petites filles. Bref, il faut du café, ça tombe bien. On va réaliser des expressos, des cappuccinos ou même des latte macchiato dans le jeu Café Del Gatto.
Bien sûr.
Et oui, Café Del Gatto, c'est un jeu de Julia Wagner, j'espère que je prononce bien son nom, et Lena Burkhardt, dans lequel c'est tout simple, c'est un jeu familial qui a l'air assez accessible. Je n'ai pas pu y jouer, mais vraiment, il m'a donné envie.
Ah, moi, je l'avais testé à Cannes. Je l'avais testé à Cannes
super.
Et je le présente la semaine prochaine. Donc tu vois, nickel.
Ah, trop bien. Donc vous allez faire des cafés, devoir les servir, remplir des petits objectifs, si j'ai bien compris, pour marquer des points. Donc ça m'a bien intéressé, moi qui vraiment carbure au café. J'en suis à mon troisième ce matin. Donc,
ah déjà ?
C'est parti.
Alors moi, tu vois, je me suis levé à 4 heures, j'ai pas pris un seul café.
Oh, moi, je peux pas commencer ma journée sans ça, quoi. Et enfin, qui dit rentrée, là, je vais pas te faire le coup, je vais y aller tout de suite. Qui dit rentrée dit voyage. Ça paraît pas évident comme
ça. Ah bah non, pas du
mais
tout.
Vraiment, si, bah non, mais regarde, si t'as pas fait d'enfant, t'as un peu la chance de pouvoir encore partir et t'évader. Et surtout si t'es dans le déni, tu vas pouvoir un peu quitter l'hexagone grâce aux sorties de cette semaine, notamment grâce au jeu Barcelona de Dani Garcia où, évidemment, on se retrouve en Espagne. Bon, c'est pas l'Espagne la plus folle et la plus fêtarde, l'Espagne du 19e siècle, elle vient d'être détruite et on est des bâtisseurs qui essayons de construire des bâtiments pour accueillir tout le monde. Et évidemment, on va essayer de construire des bâtiments un peu plus jolis et artistiques pour accueillir les plus riches, toujours que pour eux. Mais voilà, si jamais vous voulez voyager un peu plus loin, mais on reste toujours dans la construction, écoute, on voyage mais on se repose pas pour autant.
D'accord.
Vous avez cette semaine le jeu Pyramido, qui est un jeu Quadquan.
Ah, j'ai présenté cette semaine en plus.
Ah, super. Et donc, bah, comme tu l'as présenté, les gens le savent, mais vous allez construire la meilleure pyramide.
Oui.
C'est un système de tuiles un peu à la King Domino, comme si vous connaissez ce jeu. Et vous allez devoir connecter les mêmes couleurs ensemble et scorer le mieux si vous avez des grandes zones avec le plus de symboles sur ces zones.
On est sur un mélange.
Un peu plus...
Dorine, on est sur un mélange entre King Domino et Acropolis un petit peu, non ?
Ouais, tout à fait, puisque vous savez qu'à la King Domino, vous avez ce système de tuiles, et là, à Acropolis, c'est parce que vous avez la pyramide qui se construit en hauteur, un peu en 3D. Vous allez scorer avec les tuiles encore visibles du dessous. C'est assez intéressant, ça apporte un petit challenge différent de ce qu'on a eu l'habitude, donc c'est plutôt cool.
Okay.
Et donc, bah, là, tu vas me dire, bon, c'est la rentrée, c'est bien sympa, Dorine, mais on bosse dur, on doit servir des cafés, construire des trucs, pour d'autres gens, il y en a marre un peu.
Alors, ouais.
T'inquiète pas. On bosse pas que pour les autres, on va aussi bosser un peu pour nous.
Okay.
Et là, c'est surtout les enfants qui vont bosser dans la sortie de la semaine enfants qui est le plus attendu, si on en croit les réseaux sociaux, c'est Fluffy Valley.
Mais
et
oui.
Ça, je sais que vous en avez parlé.
Mais oui, Anne-Gaëlle nous en a parlé mercredi.
Mercredi, ouais. Fluffy Valley, c'est donc un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière dans lequel vous allez devoir aider les petits chiens de prairie à préparer leur terrier. Des chiens de prairie, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme des marmottes, mais en plus gros et en plus mignon. Et donc, vous allez, grâce à vos petits potes, les hérissons et le castor, construire votre terrier, préparer votre terrier pour avoir assez à manger, des petites baies, de la paille, du miel, etc. Faudra faire attention aux belettes et aux renards qui vont venir nous chipper des trucs, mais c'est l'initiation à la pose de foyer pour les enfants. Moi, j'ai joué avec mon neveu de 5 ans. Alors, il a annoncé à partir de 6 ans le jeu, si je me trompe pas. Écoutez, on est vraiment tous très intelligents dans la famille, donc mon neveu de 5 ans, il a réussi. Et il a adoré ça, vraiment, il m'a demandé d'enchaîner les parties. Donc, évidemment, si vous l'achetez, c'est super, le monde va aimer. Soyez prêts à faire au moins 2 parties de suite, parce qu'ils vont vous le demander. Vraiment, le système du plateau où on joue dedans est assez formidable.
Et après, il t'a demandé de jouer à Seven Wonders, non ?
Après, on n'a pas demandé de jouer à Seven Wonders, mais c'est bientôt, j'espère. Il y a plein d'autres sorties, bien sûr, cette semaine. Dans les jeux enfants, on a aussi Turbo Kids, qui est annoncé comme enfant, mais que je conseillerais plus pour des adultes qui veulent passer une bonne soirée, une bonne soirée ambiance.
Après dans avoir Turbo bu un verre. Non, je rigole. La vie d'alcool est dangereuse pour la santé.
À consommer avec modération, buvez des cafés, ça peut être sympa. C'est un jeu dans lequel vous êtes en équipe, vous affrontez une des personnes de l'équipe a les yeux bandés et l'autre personne va devoir essayer de guider son coéquipier sur un circuit, donc avec un feutre et sur un circuit papier, grâce à l'utilisation de son pouce. On va utiliser le pouce de la personne qui a les yeux bandés pour lui dire hey, tu dois aller tout droit, tu dois tourner un peu à gauche, etc.
En gros, c'est son joystick, quoi.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, faut quand même être assez à l'aise avec l'idée, mais ça peut être évidemment drôle pour des enfants, mais surtout entre adultes, n'hésitez pas à regarder ce jeu de plus près.
Mm-hmm.
Cette semaine, on a plein d'autres sorties. On a Fish and Shark, on a Western Trail, qui est le troisième opus de la gamme. Donc, c'est quand même du plus gros jeu, hein. C'est du deck building, on va collecter des petits moutons pour aller vendre la laine et tout ça, donc c'est plutôt intéressant. On a une extension pour Iki, donc qui est Iki à Kekuno.
Oui, on en parlera lundi.
Ah, super. Et on a une réédition d'un grand classique, mais que moi je ne connais pas, je dois bien être honnête, qui est les Princes de Florence.
Ah ben, je ne connais pas non plus, j'ai entendu ce jeu, ouais, effectivement.
Ouais, j'ai pu regarder un petit peu, et donc vous avez un système d'enchères où vous allez devoir aller acheter des polyominos. Encore une fois, vous êtes dans un truc où il faut construire une ville, hein, écoutez. Et vous allez acheter des polyominos sur les enchères, mais au fur et à mesure, un peu le but, c'est de pouvoir faire en sorte de pousser les autres à acheter des tuiles pour qu'ensuite, à la fin, vous soyez un peu tout seul et à faire votre marché comme vous voulez, si j'ai bien compris.
Ouais.
Ça a l'air très intéressant. De toute façon, à partir du moment où c'est réédité, c'est quand même qu'il y a eu
ben oui.
un minima un succès d'estime au début. Et j'ai hâte de regarder ça, donc ça sort aussi ce vendredi.
Très bien. Est-ce que t'as un petit coup de cœur là, dans toutes ces sorties?
Dans toute cette sortie, écoute, en coup de cœur ou en tout cas en jeu auquel je vais m'intéresser, il y a vraiment Café Del Gato.
Ouais.
Et pourquoi? Parce que c'est assez rare pour le souligner, ce sont donc deux autrices sans co-auteur masculin. Et surtout, ce n'est pas un jeu pour enfants. Là, on a l'habitude
oui.
d'avoir des autrices un petit peu dans le monde du jeu, mais plutôt pour des jeux pour enfants. Ça a l'air d'être un jeu familial, hein. Ça n'a pas l'air d'être un très gros jeu, mais j'ai envie de regarder ça et de lui donner sa chance en espérant que ce soit bien.
Et sur ta grande passion, en plus, le café.
Le café.
Merci.
Café et fromage, ma vie.
Très bien, on parlera aussi de fromage. Alors. Merci beaucoup, Dorine, et on
Merci
se retrouve vendredi prochain. Salut.
Ciao.